Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien.
Vous écoutez l'épisode 46 de la saison 3 du podcast Les enfants vont bien. Tellement de sujets sont abordés dans cet épisode que j'ai eu du mal à sélectionner ce que j'allais indiquer dans le titre. Mais j'avais très envie de traiter de l'avortement, parce que je sais que dans nos familles, certaines ont dû y avoir recours, parce que leur chemin de vie les y a amenées. C'est alors difficile à appréhender quand nous devons passer ensuite par un parcours PMA engageant et contraignant pour concevoir nos enfants. Cette ambivalence est pesante et toujours en toile de fond lorsque l'on envisage de construire une famille. Oui, mais voilà, la vie n'est pas linéaire. Il y a des bons et des mauvais moments. Marion n'était pas prête à accueillir un bébé alors qu'elle reconstruisait sa vie après une rupture difficile. Ce bébé s'est niché lors d'une relation d'un soir avec un garçon, la seule qu'ait eu Marion. Elle a fait le choix de l'IVG, elle a subi cette IVG et puis elle est passée à autre chose pour avancer. Son esprit y a cru très fort, et pourtant, ce petit bébé n'était pas décidé à se laisser déloger. 4 mois et demi plus tard, Marion découvre qu'elle est toujours enceinte, d'une petite fille qui s'appellera Stella. Alors elle a composé, elle a transformé le contexte pour que finalement elle soit en mesure de l'accueillir. Et puis elle a rencontré Elisabeth, qui a souhaité devenir la maman de Stella, elle aussi. Ça aura pris 10 ans de montagnes russes, d'angoisse parce que le géniteur de Stella est réapparu dans leur vie, d'insécurité parce qu'il faut encore se battre pour pouvoir adopter nos enfants. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion.
Bonjour Constance.
Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. Je vais préciser tout de suite que cet épisode est un petit peu différent des épisodes que j'ai l'habitude d'enregistrer et que donc il peut ne pas être bien entendu ou ne pas être facilement entendu, donc vous êtes libre ou non d'écouter cet épisode, particulièrement dans le contexte de nos familles, on va dire, puisqu'aujourd'hui nous allons traiter de l'avortement et aussi un avortement dans le cadre de nos familles, alors un peu particulier, je ne vais pas en dévoiler plus. Est-ce que pour commencer, Marion, tu peux te représenter, puisqu'on t'a déjà entendu dans un podcast de la Saint-Valentin, qu'on a déjà entendu Stella, et qu'on t'a déjà aussi entendu sur un des petits podcasts de l'été.
Oui, alors bonjour, moi c'est Marion, ou Marmotte pour les intimes. J'ai bientôt 33 ans, et je suis mariée à Elisabeth, et nous sommes les mamans de Stella, qu'on appelle Marmottine, et d'une petite brioche qui est prévue pour bientôt, très bientôt.
Très très bientôt. Pour resituer rapidement le contexte, tu as rencontré Elisabeth, il y a combien de temps ?
Alors avec Elisabeth, on s'est rencontrés en avril 2015, le lendemain des 3 ans de Stella.
Voilà. Et donc Stella est arrivée dans ta vie, donc tu as rencontré Stella avant Elisabeth, on est bien d'accord ?
Oui, j'ai rencontré Stella bien avant Elisabeth, 3 ans avant, pour être exact.
D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte qui entoure la conception de Stella ?
Évidemment. Alors du coup, Stella, elle a été conçue en juillet 2011, quand j'étais moi-même au pair, jeune fille au pair, à Londres, donc au Royaume-Uni. J'étais partie en fait en janvier 2011 en me disant que je laissais tout derrière moi, que j'allais commencer une nouvelle vie parce que j'avais eu, comme beaucoup de gens, le cœur brisé. Et donc, je me suis reconstruite dans cette ville. J'ai vécu ma meilleure vie pendant un bon paquet de mois. J'ai fait la fête, enfin bref, la vie londonienne comme on l'imagine. Et à côté de ça, enfin j'ai fait la fête, mais... Bah, il se passe ce qui se passe parfois. À un moment donné, je me suis sentie un peu seule aussi. Et donc, bon, l'alcool aidant, et je la fais courte, mais en gros, j'ai fini par coucher avec un garçon, ce qui n'est absolument pas ce que j'aime, parce qu'en fait, je suis vraiment purement une nana qui aime les nanas. Et c'est juste la solitude, en fait. Et ça arrive. Mm-hmm. C'est pas ma plus grande fierté, hein. C'est pas mon meilleur moment. Et malgré le fait qu'on se soit protégé avec ce garçon, et malgré le fait que pour des raisons médicales autres, on m'avait laissé entendre que possiblement j'aurais des difficultés à avoir des enfants, si ce n'est que j'en aurais pas. Mm-hmm. Donc à ma grande surprise, je me suis retrouvée enceinte après avoir eu juste un coup d'un soir. Et donc ça, c'était en juillet 2011, et je l'ai appris quasiment tout de suite, en fait, parce que, je sais pas, je l'ai senti, enfin, il y avait un truc. Mm-hmm. Et quand je me suis aperçue que j'étais enceinte, en fait, ça rentrait pas du tout dans mes plans, j'avais à peine 22 ans, j'avais juste un bac en poche, je vivais chez des gens, parce que j'étais du coup jeune fille au pair, j'avais tout quitté en France, j'avais pas de travail, j'avais pas d'appart, j'avais rien. Et en revanche, ce que j'avais, c'était une éducation assez ouverte de ma famille et assez féministe, presque. Et du coup, ça s'est pas posé vraiment comme une question pour moi. Je me suis dit, ok, genre, c'est une décision très dure à prendre, mais en 24-48 heures, la décision d'avorter, elle était prise. Et donc, j'ai appelé une de mes meilleures amies. J'ai pleuré pendant des heures parce que c'était quand même une décision dure à prendre pour moi à l'époque. Parce que c'était une chance, en fait, entre guillemets, qu'on me donnait, alors qu'on m'avait dit que possiblement j'aurais pas d'enfant ou j'allais galérer. Et en tant que lesbienne, j'avais pleinement conscience que les parcours de PMA, c'était pas non plus un truc super simple. Mm-hmm. Et là, je savais que je ne pouvais pas garder ce bébé. Donc, il fallait avorter. Donc, c'était dur. Et le temps que je digère la nouvelle, j'ai contacté un centre de planning familial, en fait, en banlieue parisienne, qui est aussi l'hôpital où je suis née moi-même. Et j'ai pris rendez-vous, la dame m'a tout expliqué. L'un dans l'autre, j'ai attendu quelques semaines par rapport à la date pour pouvoir avorter, tu sais, non pas de manière médicamenteuse, mais par aspiration. Mm-hmm. Parce qu'en fait, je suis une chochotte et j'ai aucune... Je ne supporte pas la douleur. Et en fait, beaucoup de gens m'ont expliqué que d'avorter de manière médicamenteuse, ça prend des jours et tu souffres super longtemps. Et j'étais pas capable, en fait. Psychologiquement, déjà, je souffrais de devoir faire ce choix-là. Je voulais pas souffrir physiquement. Sachant que j'ai des règles douloureuses, j'avais d'autant plus peur. Et donc, j'ai pris rendez-vous pour aller faire une anesthésie générale et une aspiration. Donc, ouais, un avortement par aspiration. C'était pas très tard. C'était le premier jour du délai légal pour faire l'avortement par aspiration.
D'accord.
Donc, je sais plus. Enfin, ça fait 10 ans, donc j'ai un peu oublié les délais. Mais de mémoire, il y avait, je crois que tu as 5 semaines. Il faudra vérifier ça. Tu dois avoir, quelques semaines pour faire par médicament, en fait. Et après, tu as une autre période où tu peux faire par aspiration. Et moi, j'étais sur le premier jour du délai légal par aspiration parce que je voulais quand même avorter assez vite vu qu'il fallait que je retourne à Londres. C'était sur mes vacances d'été.
Ouais, d'accord. Tu avais organisé ça pour que ça tombe. J'allais te demander pourquoi Paris et pas Londres, du coup.
Et c'est ça. Stella a été conçue mi-juillet. Moi, je quittais Londres le week-end qui suivait, je crois, donc une semaine après. Et j'avais peut-être 6 semaines devant moi, je crois. Enfin, c'est pas beaucoup, 5 ou 6 semaines en France. Et puis, vu que je rentrais pas souvent en France, en fait, j'ai baroudé, j'ai fait le tour de la France pour voir mes copains. Et j'en ai profité entre-temps pour me faire avorter. Donc, j'ai pas eu beaucoup de repos. Et donc, je suis allée à l'hôpital et c'était super dur. Et l'un dans l'autre, j'ai dû mettre ma maman au courant parce qu'en fait, il fallait forcément quelqu'un pour accompagner en cas d'avortement. Dans cet hôpital, en tout cas, c'était le process. Et notamment, quelqu'un pour venir chercher la personne. Donc, évidemment, moi, j'ai pris la seule personne qui ne conduit pas. Ma maman ne conduit pas, donc elle est venue me chercher en bus. Et c'était très, très dur psychologiquement, mais ma mère m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, elle m'aidait à voir la réalité en face, qui était que j'avais rien pour accueillir ce bébé et que j'étais partie vivre à Londres pour avoir une meilleure vie et pour construire quelque chose et qu'avec un bébé dans les pattes, j'allais jamais y arriver. Mmh. Et j'ai avorté. Je suis allée chez ma grand-mère de cœur pendant quelques jours pour me reposer après ça, en Beauce, là où finalement j'habite maintenant, donc c'est assez rigolo. Et l'un dans l'autre, à l'époque, il y avait un bar à Paris qui s'appelait Le Troisième Lieu.
Oui, c'est vrai.
Et c'est ça, c'était un super bar et j'ai réussi à sortir dans ce bar. Enfin, j'étais sortie dans ce bar quelques jours avant d'avorter et j'avais fait des rencontres de nanas sympas et donc on discutait pendant le temps où je me reposais après mon avortement. Et en fait, je pense que je suis tombée un peu... à l'époque, je disais croque-love, c'est un peu qui coulole de dire ça. Mais je suis tombée un peu sous le charme d'une nana. Et donc, j'ai bousculé mes vacances, en fait, pour aller, après ma semaine de repos post-avortement, pour aller la voir. Et donc, il y a une erreur que j'ai faite à ce moment-là, et qui est la mienne, c'est que je n'ai pas fait l'écho de contrôle post-avortement, parce que elle m'a été présentée comme une écho de comme un rendez-vous, c'est pas une écho de contrôle qu'on m'a présenté, c'est un rendez-vous de contrôle qui était fait avec la psychologue pour vérifier que tout allait bien. Et en fait, je me suis auto-médiquée, entre guillemets, parce que moi, j'ai décrété que tout allait bien, vu que j'étais en train de tomber amoureuse d'une nana et que j'étais sur mon nuage et que voilà, l'avortement, c'était dur, mais finalement, c'était passé. Mmh. Et donc, je ne suis pas allée, j'ai fait l'impasse sur le rendez-vous de contrôle, pensant qu'il était avec un psy. Et on m'a dit des années après qu'en fait, c'était pas avec un psy, c'était avec un échographiste ou un échographe, une personne qui fait des échographies.
Mmh. Mais parce que, attends, reprenons du début. Donc, en fait, voilà. T'es quand même suivie. Est-ce que tu es suivie du départ par un psychologue ou pas? Ou est-ce que c'était seulement ce fameux rendez-vous qui potentiellement t'a été présenté comme étant un rendez-vous d'accompagnement?
J'ai pas été... Non, alors... Je n'ai pas été suivie par un psychologue. J'ai été suivie... suivie, non, parce qu'un rendez-vous, ce n'est pas un suivi. J'ai vu une personne au planning familial qui n'était pas psychologue, je crois. En tout cas, ça m'est pas... Je n'ai pas en tête que cette personne était psychologue. Mais une personne qui m'a expliqué les options qui s'ouvraient devant moi. Le garder le bébé, faire un avortement médicamenteux, faire un avortement par aspiration. Le mettre à l'adoption sous X. Enfin, voilà, elle m'a expliqué toutes mes options. Mmh. Et c'est tout ce que j'ai vu. Après, j'ai vu l'anesthésiste, peut-être. Et le jour de l'avortement, l'équipe qui m'a pris en charge. Mais je n'ai pas vu de psychologue.
D'accord. Okay.
De mémoire.
Et donc, du coup, à ce moment-là, on ne t'a pas expliqué du tout quel était le contenu de ce dernier rendez-vous qui était donc un rendez-vous de contrôle.
Non, en fait, la dame... Quand je suis sortie de la maternité, on m'a donné un papier en me disant que je pouvais me rendre pour mon rendez-vous de suivi à telle date, tel bâtiment, mm-hmm. pour un rendez-vous de suivi et de contrôle. Donc, suivi et contrôle, pour moi, ça voulait dire physique, en fait.
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des séquelles? Est-ce que... Voilà. Pour moi, c'était vraiment ça. Après, j'avais 22 ans, j'étais peut-être pas aussi renseignée non plus. Je sais pas.
Ouais, mais dans ce cas-là, tu vois, c'était leur job de te renseigner parce que à 22 ans, non, tu sais pas forcément comment fonctionne un avortement. Je le sais déjà pas à 40. Enfin, tu vois, je veux dire, moi, si ça m'arrivait aujourd'hui, je sais pas quelles sont les étapes obligatoires d'un avortement. Je le sais grossièrement, tu vois.
Après, la différence, je pense, entre à l'époque et maintenant, c'est que si ça devait m'arriver aujourd'hui, j'irais sur Internet voir les infos.
Ouais, C'est vrai, tu as raison.
Et
maintenant, on peut se renseigner.
C'est souvent ce qu'on se dit avec ma femme. Enfin, ma femme, n'importe quoi. Genre, Google est tellement son amie. Elle se pose une question, elle la pose à son téléphone tout de suite. Et moi, j'ai toujours pas ce... Pourtant, c'est pas grand-chose. On a 6 ans d'écart, c'est pas énorme. Elle est plus jeune que moi, mais elle a ce réflexe. En plus, elle est développeuse web, donc peut-être elle a plus la tête dans les ordinateurs, j'en sais rien. Moi, j'ai pas encore ce réflexe-là et à 33 ans, mais je l'avais clairement pas à 22. Donc, aller me renseigner sur l'avortement avant d'avorter, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Pour moi, quand tu veux une info scientifique et médicale, tu vas pas voir Google, tu vas voir un médecin.
C'est ça, c'est ça.
C'est ça.
Clairement. Voilà. Donc, du coup, tu fais pas ce rendez-vous de contrôle, tu tombes in love de cette fameuse nana. Et qu'est-ce qui se passe, quoi ? Est-ce que avec cette nana, il se passe quelque chose déjà ?
Alors, avec cette nana, il se passe effectivement que je suis passée chez elle, que j'ai passé un super moment. Et après, j'ai repris mes affaires et j'ai pris mon train, mon Eurostar, pour rentrer chez moi à Londres. Mm-hmm. Mais on a construit une relation à distance. Bon, l'histoire, ce sera que c'était finalement une nana méga toxique qui m'a fait beaucoup de mal. Et qui en a fait à Stella, et du coup, parce qu'en fait, elle voulait absolument pas se poser, cette nana-là, et qu'elle avait des problèmes à elle.
Oui, donc vous êtes restés un petit moment ensemble.
On est restés toute ma grossesse ensemble, en fait, et presque, ouais, jusqu'au 1 an et demi de Stella, en pointillé et tout ça, mais bon, elle avait clairement de gros problèmes avec l'alcool que j'avais pas vu tout de suite, et elle était totalement assistée, et en fait, c'était à moi, mère célibataire, avec même pas de revenus, en fait, parce que j'étais étudiante, de l'entretenir.
Ouais. Donc,
j'avais déjà ma charge mentale de maman à gérer, et il fallait en plus que je gère ses problèmes à elle, et donc, clairement, en fait,
t'avais un peu d'autre chat à fouetter.
C'est ça. Donc, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit « Non, mais franchement, c'est pas une bonne idée. Tu vois bien, c'est un problème. » Et maintenant, on en rit parce que j'étais un peu idiote de pas le voir à l'époque. Mais le jour où je m'en suis aperçue, je l'ai vraiment littéralement foutu dehors.
Maintenant, tu pars. Ok.
C'est ça. C'est ça.
Ah, mais quand on en a la force, c'est vraiment... c'est chouette. Hein. Y a des gens qui restent enferrés dans des relations toxiques pendant des années et des années.
Ouais, mais en fait, elle a mis ma fille en danger. J'ai plein de défauts, mais en fait, on peut pas faire ça avec mon enfant à moi. Et c'est déjà avec l'enfant des autres, j'ai du mal à le supporter, mais alors pas avec la mienne. Et donc, et donc je l'ai littéralement mise dehors, ouais. Sachant que je l'avais prévenue avant, hein, j'ai pas été ingrate, j'ai pas été une mauvaise personne. Je lui avais donné plusieurs ultimatums avant. Et bon, voilà. Un jour, j'ai pété un câble et je l'ai mis dehors.
Bah, je pense que t'as bien fait. Et je pense que maintenant, tu penses que t'as bien fait.
Ah, j'ai jamais eu un seul regret parce que la sécurité de Stella en dépendait.
Ouais, ouais. Bon, revenons-en à ce fameux, donc à ton retour en Angleterre.
Ouais.
Donc du coup, c'était 6 semaines après, tu retournes en Angleterre, tu retournes dans cette même famille dans laquelle tu étais déjà ?
Oui, je retourne dans cette même famille et je reprends ma petite vie et je trouve un stage. Donc moi, j'avais repris des études pour travailler en tant que professionnelle de la petite enfance dans une espèce de crèche multi-accueil. Je ne sais pas comment ça s'appellerait en France, mais en fait, chaque jour de la semaine, c'était un type d'accueil différent. Donc, il y avait, c'était assez rigolo. D'ailleurs, le mercredi, c'était l'accueil des filles mères, enfin, ce qu'ils appellent les filles mères, donc les très, très, très jeunes mamans. La plus jeune, elle avait 14 ans. Et puis, voilà, il y avait un jour de garderie, un jour d'activité avec les parents de tous âges. Voilà, donc, pas mal de trucs. C'est vraiment très, très sympa. J'ai appris pas mal de choses. Et les mois se passent. Et moi, j'avais les règles, ce que je pensais être des règles, qui étaient peut-être un peu différentes parce qu'il y en avait moins. Mais je perdais du sang tous les mois de manière assez régulière, donc je me suis pas posé plus que ça la question.
Oui, et puis post-avortement, tout peut changer. Enfin, le cycle, il peut bouger, quoi.
C'est ça. Et puis, j'avais des symptômes de grossesse, mais en fait, j'ai compris que c'était des symptômes de grossesse que bien plus tard, parce que j'avais une explication absolument rationnelle à tout ce que j'avais. Par exemple, moi, j'ai vomi tous les matins pendant quasiment 9 mois. Sauf qu'en fait, donc tant que j'étais enceinte, j'étais enceinte, ok. Mais quand j'étais plus enceinte, en fait, c'était parce que je me lavais trop fort les dents, c'était sûr.
Ah oui, et t'as pas été chercher le côté psychologique peut-être de l'avortement ou...
Pas à ce moment-là.
D'accord.
J'ai vomi parce que, en fait, moi, je me lavais super fort les dents. J'avais des gingivites, en fait, Stella, mon dentiste rigole beaucoup, mais elle m'a pompé tout mon calcium dans mes dents. Donc, elle a des très bons os, c'est génial, mais moi, j'ai plus de dents.
Oui, c'est connu, donc, ça.
Ouais, moi je peux pas manger une glace et boire un truc chaud, c'est impossible. Alors qu'à une époque, c'était mon grand plaisir. Et donc, en fait, voilà, je vomissais, mais je l'expliquais parce que je me lavais trop fort les dents. Je saignais de la bouche parce que j'avais des gingivites. Pareil, je me lavais trop fort les dents. J'étais excessivement fatiguée, oui, mais j'étais jeune fille au père. Je courais partout, je vivais une vie de folie, je m'occupais des gamins toute la journée. Donc, j'avais vraiment une explication très, très rationnelle à tout ce que je vivais.
À chaque symptôme de grossesse, oui.
Exactement. Après, moi, je suis quelqu'un qui suis je suis en surpoids depuis quasiment toujours. Je crois que je n'ai pas de souvenir de moi où je n'ai pas été en surpoids. Donc, les personnes en surpoids, peut-être ça se voit moins. En tout cas, moi, j'ai perdu du poids. Hein. Quand j'ai accouché de ma fille, j'étais à moins 5 kilos par rapport à avant ma grossesse. C'est-à-dire avant d'accoucher de ma fille.
Oui.
Une fois que j'ai sorti elle, j'imagine que j'étais encore moins.
Encore moins, oui.
Moi, c'est après que je les ai pris, les kilos, donc c'était sympa.
Ouais, mais tu sais que je crois que t'es pas toute seule. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai pris des kilos après mes grossesses.
Pourtant, toi, avec des triplés, faut le faire. Parce que tu devais être méga active en plus. Hein.
Ouais. Et mais en fait, tu manges un peu n'importe quoi, n'importe quand, quand tu as le temps. Et
c'est ça
fait du dégât.
Donc du coup, ouais, j'ai fait un déni de grossesse, en fait.
Bah oui, c'est clairement ça.
Pendant plusieurs mois, en fait, j'avais absolument pas conscience que j'étais enceinte, du tout. Je pensais que j'étais fatiguée parce que je sortais, que je vomissais parce que ou j'avais trop bu ou mon brossage de dents intensif et tout ça. Bon, alors, je buvais moins cette deuxième partie d'année que la première partie d'année entre janvier et juillet avant de tomber enceinte. Mais ça, c'est la vie qui a fait ça. C'est parce que j'ai perdu ma copine de Beuvry entre-temps. Donc, elle est partie. Elle est rentrée en France, en fait.
D'accord.
Donc,
ouais, finalement, la vie, elle est dans le bon sens.
C'était pas plus mal. Mais c'est vrai que je fais partie de ces, a posteriori, de ces horribles parents qui ont continué à boire pendant qu'ils étaient enceintes, alors que c'est bien connu qu'il faut pas le faire. Mais factuellement, je le savais pas.
Ça. Voilà.
Et je pense que la nature est bien faite parce qu'en fait Stella, c'est un enfant, elle est absolument parfaite, elle est en parfaite santé, elle l'a toujours été. Et pourtant j'ai rien fait en matière de suivi de grossesse et compagnie, donc la vie a ses propres plans.
Je crois que la vie voulait que tu rencontres Stella surtout parce que là tout va dans ce sens-là.
C'est ça.
Et alors à quel moment tu te rends compte que tu es toujours enceinte, ou peut-être à nouveau enceinte, mais en l'occurrence, il n'y avait pas de logique, mais bon.
Eh bien, je me suis rendu compte que j'étais encore enceinte, en fait, en voyant dans mes ateliers de crèche multi-accueil où je travaillais, je discutais avec une très jeune femme qui avait déjà un petit bébé, un toddler, comme on dit, qui marchait, donc, et qui m'expliquait qu'en fait, elle venait de réaliser qu'elle était enceinte, mais elle ne l'avait pas vu venir, et elle me parlait de ses symptômes. Et ça a pris un moment avant que dans ma tête je connecte et je me dise mais peut-être j'ai un peu les mêmes quand même, c'est un peu
voilà. Peut-être que ça me rappelle quelqu'un, peut-être.
C'est ça, et bon voilà, ça m'a pris du temps à laisser pénétrer l'info et j'ai fait comme beaucoup de gens, le fameux pipi sur un bâton qui te dit que oui ou non tu n'es pas enceinte. Et en fait le réactif, il n'avait pas eu le temps de monter à la barre de contrôle que le test était rouge écarlate.
Et tu sais qu'en fonction du stade de grossesse, il peut ne pas virer non plus, quoi. Donc,
moi, en tout cas, il est monté comme ça en deux secondes. Ils te disent, il faut attendre, je sais plus, trois minutes, je crois. Mmh. Moi, j'ai pas eu besoin d'attendre trois secondes. Le truc était rouge et du coup, de panique, j'ai fait pipi sur un deuxième puis un troisième bâton pour être sûr que le truc n'était pas cassé. Et je l'ai fait pendant 2-3 jours d'affilée, pour être sûre aussi. Donc, des bâtons, j'en ai gardé qu'un, mais des bâtons de test de grossesse, en fait, pour Stella, j'ai dû en utiliser une dizaine. Et quand j'ai réalisé, je suis allée voir la directrice de l'endroit où je travaillais. Donc, j'étais en stage, en fait, j'allais à l'école en parallèle, donc il n'y avait pas d'enjeu d'employeur ou quoi. C'était bon. Mm-hmm. Une directrice de stage, je suis allée la voir et je lui ai dit, écoute, je suis un peu en panique parce que j'ai fait pipi sur un test, je suis enceinte. Mais dans ce pays, je ne sais pas ce que je dois faire. Et je lui expliquais que j'avais avorté, que...
Oui, voilà, parce que toi aussi, dans ta tête, il a fallu que ça s'imprègne, quoi.
C'est ça. Après, moi, je suis le genre de personne qui peut s'habituer à beaucoup de choses. Enfin, tu le sais, Constance, parce qu'en parallèle, Constance nous suit avec Elisabeth qui est enceinte, parce que c'est notre doula. Et du coup, Constance a vécu avec nous beaucoup de choses pour lesquelles on a dû s'adapter. Et donc, Constance, tu sais que je suis capable de m'adapter, il faut juste me laisser 24-48 heures pour digérer les nouvelles. Mm-hmm. Et donc, une fois que j'ai percuté que j'étais enceinte et que c'était pas des restes de, je sais pas, de produits ou quoi, parce que ça faisait bien des mois, j'ai voulu comprendre ce qu'il fallait que je fasse, en fait. Et j'ai été suivie, donc, sur les recommandations de cette personne dans un des plus grands hôpitaux de Londres. Et je me souviens, ça faisait 5 jours que je savais que... Enfin, 5 jours que j'avais fait pipi sur le bâton, donc que je savais que j'étais encore enceinte. Et je suis allée voir un monsieur. Il était gynécologue, mais la vérité, je sais... C'était un vieux gris-gris, quoi. Le mec, il a le diplôme parce qu'il faut un diplôme, mais en fait, c'est un sorcier, il a le truc dans les doigts. Mm-hmm. Il m'a mis sur la table d'examen, il m'a regardé, il m'a dit « Pourquoi vous êtes là ?» Et donc, je lui explique mon cas. Il met la main sur mon ventre, et j'avais pas de ventre. Enfin, j'étais juste un peu grosse, mais j'avais pas du tout de ventre de femme enceinte du tout. Et le mec appuie dans un sens, puis dans l'autre. Il me dit, mais là, si c'est pas des jumeaux, vous aurez de la chance. Bien sûr que vous êtes enceinte.
Des jumeaux. Oh,
j'avais 22 ans, j'étais toute seule. Et puis, bon, l'anglais, je me débrouille bien, mais c'est pas ma langue maternelle non plus, quoi. Mmh. Et maintenant, j'ai un bien meilleur niveau que ce que j'avais à l'époque. Donc, je me suis vraiment dit, le mec, j'ai pas compris ce qu'il me dit, en fait. Et je lui ai demandé de répéter 2 fois. Et c'est son interne, ou enfin c'est le jeune avec lui qui devait être son interne, qui m'a re-expliqué, non, en fait, vous êtes bien enceinte. Et là, j'ai pris un coup, alors que je le savais, en fait. Mais là, j'ai pris un coup parce que j'avais trop peur d'avoir des jumeaux.
En plus, non, mais des fois, ils font vraiment pas attention à ce qu'ils disent. Hein.
C'est ça. Mais factuellement, avoir des jumeaux, en soi, c'était un rêve à l'époque, mais juste pas dans ce contexte-là.
Non, mais toute seule. Non, mais enfin, bon. Ça. Voilà.
Bref, donc c'était un peu l'histoire fun. Et donc, de là, ils m'ont envoyé faire une échographie. Mm-hmm. Et c'est une partie... après, on croit ou on croit pas. Moi, je crois dur comme fer à ça. Mais pendant l'échographie, la personne, elle parlait pas. Elle était très, très concentrée, cette femme-là, sur ce qu'elle faisait, parce que j'imagine qu'il y avait un enjeu. Après une fausse couche, il faut vérifier que tout va bien et qu'il ne lui manque pas un bras ou quoi que ce soit. Mmh. Elle fait tout son examen clinique et à un moment donné, moi, je vois littéralement 36 chandelles, comme dans les dessins animés, les petites lumières qui tournent autour de ta tête. Et j'avais jamais vu ça de ma vie, en fait. J'avais jamais eu l'expression « voir 36 chandelles ». Je l'ai compris ce jour-là. Mmh. Et je m'enfonce un peu plus dans le fauteuil et je commence à respirer en me disant « ça va pas, ok ». Et je ferme les yeux. Et devant mes yeux, il y a écrit, en espèce de lumière violet, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc-là, il faudrait que je cherche depuis le temps que je raconte cette histoire, mais c'est quand on bouge très vite un flash devant un appareil photo, ça écrit des mots.
Voilà. Oui, tout à fait.
Et c'était écrit en violet, c'était là.
Dingue.
Et je savais, je ne sais pas comment ça s'est passé, je suis persuadée que son âme a parlé à la mienne, mais bon, après on peut se dire que j'étais un peu bourrée, j'en sais rien, ça dépend vraiment des croyances des gens. Mais j'étais convaincue que mon bébé s'appelait Stella et que c'était une petite fille et qu'elle allait absolument très bien, en fait. Elle allait très très bien, cette petite fille.
Ouais, là, t'as connecté avec ton bébé, en fait.
J'ai connecté et la dame donc finit son examen. Elle s'est pas rendue compte du tout de ce que moi je venais de vivre en moi-même. Et à la fin de l'examen, elle me dit ok, est-ce que voilà, je peux vous faire mon retour. Et je lui dis oui. Elle me dit ok, tout va bien. Je lui dis « Oui, je sais ». Et elle me dit « Vous voulez savoir ?» Je lui dis « Non, je sais, c'est une petite fille, elle s'appelle Stella et elle va bien. Elle va très bien. » Et la dame me sort des yeux comme des soucoupes. Elle me regarde.
Sachant qu'on avait dû lui dire que c'était un déni de grossesse.
C'est ça. Elle était au courant parfaitement que c'était un dossier un peu touchy. Ouais. Et elle me regarde, elle sourit et elle me dit « Écoutez, je ne sais pas si elle s'appelle Stella, mais c'est bien une petite fille et elle va bien. » Et c'est le moment... où en fait, c'est vraiment ce moment-là où j'ai vu son prénom en violet en voyant 36 chandelles. C'est le moment où j'ai accepté, où j'ai embrassé tout ce qui m'arrivait et je me suis dit, ok, cette petite fille, t'as couché une seule fois avec un homme, avec une capote qui a pété, t'as fait un avortement dessus. Déjà, à la base, tu n'étais pas censée avoir des enfants. En plus, t'es lesbienne, c'est pas facile. Peut-être que arrête de lutter contre l'univers et juste tu l'élèves et tu vois ce qui se passe.
Ouais, mais c'est clair.
Et c'est ce jour-là, je me revois très bien, je me revois la place dans le bus dans lequel j'étais. Je me souviens d'être rentrée chez moi et de m'être dit « Ok, bah maintenant t'es une maman, en fait. »
Et genre maintenant... Ouais, tu l'as admis... Enfin, tu vois, des fois, ça prend 9 mois de grossesse plus du temps après l'accouchement.
Non. Moi, ça
a été le flash, quoi.
Bah, en fait, maman, t'es une maman. Pardon, maintenant, t'es une maman, c'était plus le.
Prends tes responsabilités.
En fait, maintenant, ton travail, c'est de faire en sorte que cette personne, enfin, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Le job de ma vie, à ce moment-là, j'ai compris que le job de ma vie, c'était de faire en sorte qu'elle, elle puisse faire le sien.
Oui.
Je sais pas pourquoi Stella, elle est sur Terre. Je sais pas ce qu'elle va faire. J'ai pas la prétention de dire qu'elle va sauver le monde, ni rien, mais je suis sûre que si elle est sur cette planète, c'est parce qu'elle a quelque chose à y faire. Et mon taf, mon travail au quotidien, c'est de faire en sorte que ce soit une belle personne et que ce pourquoi elle a été envoyée, ben, elle puisse le réaliser sans avoir de problèmes sur sa route, quoi. Et c'est pleinement ce en quoi je crois. Et ça n'a pas été facile, hein.
En même temps, tu as quand même reçu quelques signes qui vont dans ce sens-là, quoi.
C'est ça.
Je crois que là...
C'est ça.
Ouais. Et alors, ok, tu réalises, tu prends conscience, mais tu es toujours en Angleterre, en stage, tu as repris tes études.
Ouais.
Qu'est-ce que tu mets en place ? Parce que tu as tout chamboulé.
Alors, c'est là que c'est compliqué. Et moi, j'étais effectivement toujours à Londres, dans ma famille, qui ne savait pas que j'étais enceinte, parce que je venais de l'apprendre moi-même.
Et tu leur avais raconté pour l'avortement ou pas ?
Non.
D'accord, oui. Donc
non, je ne leur avais rien dit du tout. Ils étaient juste au courant que j'étais lesbienne, donc ils devaient se dire, c'est bien, celle-ci, elle ne va pas nous la faire à l'envers. Manque de bol, bon, voilà.
Raté.
Et mes parents, donc très vite, en fait, j'ai réalisé qu'il fallait que je le dise à mes parents. C'était compliqué. Ma maman, elle était partie dans le sud, chez ma grand-mère. Et donc, à l'époque, il existait un logiciel qu'on appelle Skype, avec lequel on se téléphonait. On se téléphonait très souvent avec ma famille pour se donner des nouvelles. Et le moment où j'ai appelé le Skype de ma grand-mère sur son ordinateur fixe, hein, parce que les ordinateurs portables, il n'y en avait pas tant que ça, et que du coup, j'ai vu ma mère, et en fait, j'ai vu deux personnes en face de moi, et ma grand-mère a compris que j'étais enceinte. Je sais toujours pas comment, mais elle a senti. C'est elle qui le dit, hein. Elle dit, à ce moment-là, j'ai compris que tu étais enceinte et que tu allais le garder. Et ma mère, elle n'a pas vu ce qui lui arrivait, d'autant plus que ma maman, elle est la personne qui m'a emmenée à l'hôpital.
Mais c'est ça.
Et donc, et puis, elle est infirmière en plus, donc on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ne soit pas capable de lire un compte-rendu opératoire ou quoi.
Elle comprend très bien comment ça fonctionne, oui. C'est clair.
Elle connaît bien le système de l'hôpital public, elle connaît bien tout ça, et du coup, ma mère, elle se l'est pris dans la figure, elle a beaucoup pleuré, parce que j'allais ruiner ma vie, parce que j'allais nous foutre dans la merde, parce que, voilà, j'allais nous mettre...
Dans le caca.
Dans le caca. Enfin, voilà, c'était ouais. Très dur à encaisser pour ma maman. Et paradoxalement, ma grand-mère, je crois qu'elle était quand même vachement heureuse, parce que ma grand-mère, elle a toujours voulu être arrière-grand-mère. Et des années avant, quand j'ai fait mon coming out, le seul truc qu'elle m'ait dit, ma grand-mère, c'est « Mais du coup, t'auras pas d'enfant ?» Et je lui ai répondu, écoute, je te dis pas que je suis stérile, je te dis que je suis lesbienne. Et donc là, et c'est ça. Et donc là, ma grand-mère, je lui disais, finalement, on va moins galérer que prévu à te donner des arrière-petits-enfants. Bon, elle était ravie.
Mais alors, pardon, mais du coup, je t'ai pas demandé, mais t'étais à quel terme ?
Ah, j'étais... Alors, j'arrive jamais à... Je suis nulle à ça, j'arrive jamais à compter. Moi, j'ai l'impression que pendant plus de la moitié de ma grossesse, je ne le savais pas. Et la dernière fois, Elisabeth a reconté et elle m'a dit non, en fait, c'était avant. On était, quand je l'ai réalisé, on était un petit peu avant Noël, je crois qu'on était toute fin novembre ou début décembre, j'ai appris que j'étais enceinte et je suis tombée début juillet, mi-juillet.
Ça fait 4 mois et demi quand même, ça fait moitié de grossesse, hein.
Ouais, c'est à peu près ça. À peu près ça, c'est ce que moi j'ai en tête, mais Elisabeth me dit mais non, c'était pas... C'est en tout cas dans ma tête, j'ai vraiment l'impression d'avoir raté plus de la moitié de ma grossesse.
Ouais.
Et donc bon, l'expliquer à ma maman, la voir pleurer, c'est pas... mes parents sont des gens assez pudiques, c'est pas des gens qui pleurent facilement. Mmh. Et donc ça c'était dur, mais le plus dur c'était derrière d'aller le dire à mon père que j'avais vu pleurer qu'une seule fois dans ma vie, le jour où j'avais pris l'Eurostar pour quitter la France.
D'accord.
Et j'avais jamais vu mon père pleurer à un autre moment. Et je pensais que j'allais le faire pleurer. Et en fait, je ne l'ai pas fait pleurer. Je l'ai fait rentrer dans une rage silencieuse. Ce qui est bien pire. Hein. On va pas se mentir.
Après qui ? Après toi ?
Après moi.
Après moi,
après l'hôpital, après la terre entière. Enfin, je ne sais pas trop. On n'en a jamais trop reparlé avec mon père. régulièrement, il m'envoie
mais
encore
oui,
des petits
pics. Parce que tu as quand même pris tes responsabilités.
C'est ça. Mais c'est toujours un sujet dans ma famille. Stella, elle a 10 ans le mois prochain. Et c'est toujours un truc. On prend régulièrement des pics dans la figure parce que mes parents, ben, du coup, ils ont dû arrêter les travaux qu'ils faisaient dans la maison pour que mon père s'assure d'avoir de l'argent pour nous sortir de la merde si Stella et moi, on était dans l'embarras. Il a dû mettre des choses en place, en fait, pour notre sécurité. Et c'est pas du tout ce qu'il avait prévu. Et bah, c'est-à-dire, je peux le comprendre, il arrivait enfin à avoir deux enfants majeurs et à pouvoir se dire, ok, on va prendre du temps pour nous et réaliser nos projets. Et le mec avait pas 50 ans que bim, il était grand-père.
Ouais.
Donc mon père a eu beaucoup, beaucoup de mal à le digérer. Il a passé plus ou moins la fin de la grossesse à me mettre à l'abri, mais en faisant la gueule.
Ouais.
Donc, il s'est porté caution parce que j'ai fini par rentrer en France avec mes trucs et mes machins, mes cartons, mes valises. J'ai eu tellement peur de mon père qu'en fait, c'est la mère de ma meilleure amie qui est venue me chercher à la gare d'Eurostar en pleine journée, alors que mon père était chez moi, parce que j'étais terrifiée à l'idée de lui demander de venir me chercher.
Ah, tu m'étonnes.
A posteriori, c'était idiot, mais bon.
Ah bah, enfin, non.
Pas contrôlé.
Exactement, tu peux pas contrôler, tu sais pas comment il pouvait réagir, ça se comprend quoi.
Bon, après, mon père, c'est pas quelqu'un de violent, mais c'est vrai que.
Oui, bien sûr. Mais...
La colère de mon père, c'est un truc qui m'a toujours un peu fait peur. Et il m'a aidée, voilà, il s'est porté garant pour mon appartement. J'ai retrouvé un travail le temps que je pouvais travailler en fait en étant enceinte en France. J'ai préparé un petit nid pour Stella et moi. Et mon père, d'ailleurs tout le monde, hein, ma mère, elle s'est mise à tricoter. Elle a tricoté pour Stella. C'était sa façon d'accepter, en fait. Ma mère, elle est devenue... Alors déjà, c'était la meilleure mère du monde. Mais alors, loin devant toutes les autres. Mais la grand-mère, genre ma mère, c'est tellement la meilleure granny du monde. Et elle est devenue granny, en fait, ma mère, en tricotant. Elle s'est mise à coudre, elle s'est mise à tricoter. C'était sa façon d'accepter. Et de se dire qu'en fait, la petite, elle allait manquer de rien. Et là, maintenant, elle attend son troisième petit enfant et toujours elle tricote. On sait que c'est son truc.
C'est comme ça qu'elle les accueille.
C'est comme ça qu'elle les accueille. Elle fait sa part comme ça. Et donc, on s'est préparé. Stella est tellement bien dans mon ventre qu'en fait, elle a dépassé son terme de 6 jours. Elle était prévue le 13 avril et elle est née le 19, après un déclenchement absolument... détestable.
Ouais.
Et un accouchement tout aussi détestable et traumatique qui s'est fini en césarienne. Et du coup, c'était très très dur pour Stella et moi au début de faire connaissance. C'était un peu compliqué ce début de vie. Mais je savais qu'il fallait que je m'accroche parce que j'avais la foi, entre guillemets, dans le fait que si elle était là, c'est qu'il y avait une raison, donc il fallait que je m'accroche.
Oui, tu avais cette certitude-là qui a fait que ça a dû t'aider à créer le lien. Après un accouchement traumatique, c'est pas anormal d'avoir des difficultés à créer un lien. C'est même plutôt très cohérent.
Oui, puis pour le coup, tu vois, on disait tout à l'heure, j'ai pas été suivie par un psy quand j'étais enceinte. Par contre, quand Stella était petite, assez rapidement, j'ai eu la chance d'être suivie par une psychologue absolument fantastique, vraiment genre la meilleure psychologue qui m'a été donnée de croiser dans ma vie. Et c'est une psychologue de la ville de Vanves dans laquelle je vivais. Cette psychologue m'a aidée énormément et je pense que dans les moments de vie où j'en pouvais plus, c'était mon phare quoi. C'était mon phare. Elle m'a beaucoup beaucoup aidée. Elle a beaucoup apaisé la rancœur. Parce que j'avais perdu toute ma vie que je m'étais construite à Londres. J'avais tout quitté pour me refaire une vie de folie. Et là, j'ai tout quitté à nouveau à Londres pour revenir en France. Et sûrement, moi qui suis assez rancunière, il y avait une partie de moi qui en voulait un peu à Stella quelque part. Mais elle a apaisé ça dans son travail qu'elle a fait sur mon cerveau et ça s'est fait. Et puis souvent, ce que je dis, c'est que le fait d'avoir Stella, d'être rentrée en France... Ça m'a permis aussi de rencontrer Elisabeth parce que je ne l'aurais jamais rencontrée à Londres. D'ailleurs.
Ouais, parce qu'Elisabeth, du coup, tu peux me rappeler comment vous êtes rencontrées ?
Alors, je peux. Elisabeth et moi, donc quand j'ai eu Stella, j'étais sans diplôme, j'avais juste mon bac. J'ai repris mes études Et l'un dans l'autre, avec Stella sous le bras, j'ai fait 5 ans d'études après le bac. En alternance. J'ai fait tout en alternance parce qu'il fallait quand même payer les boîtes de lait et la crèche. Et Elisabeth, je l'ai rencontrée sur les conseils de cette même amie qui m'avait emmenée au planning familial quand je suis tombée enceinte, en m'inscrivant sur un groupe Facebook qui s'appelle adopteunelesbienne.com et qui existe toujours. On ne se lasse pas de ça, il est toujours très drôle.
Ouais, c'est, oui, il est parlant, moi.
Et il existe toujours, adopteunelesbienne.com. Je n'y vais plus, mais je sais qu'il existe. Et on s'est parlé, mais on était toutes les deux dans nos partiels. Donc, on se parlait, comme ça, un peu en dilettante. Et en fait, quand on a fini nos partiels, on s'est parlé un peu plus intensément et on a senti qu'il y avait un truc. Il y avait une connexion. Et on a décidé de se rencontrer. Et en fait, on s'est rencontrés le lendemain des 3 ans de Stella. Donc Stella, elle est née le 19 avril. Et avec Elisabeth, on s'est rencontrés en vrai le 20 avril 2015. Et comme je t'avais dit dans le podcast de Saint-Valentin, avec Elisabeth, on avait chacune une to-do list, une checklist plutôt. Et moi, dans mes critères, je voulais rencontrer quelqu'un qui ne soit pas effrayé du fait que j'avais déjà une petite fille de 3 ans. Ouais, et Elisabeth, ça ne lui a pas fait peur. C'est ça.
Et aujourd'hui, avec Elisabeth, vous êtes mariée ?
On est mariés. On s'est mariés en Écosse, en plein Covid.
Ouais. Ça galéré. Aussi, tu nous l'as raconté.
C'est ça. On a bien galéré avec cette histoire-là. Mais on est mariés. On a eu le plus beau mariage du monde, je pense. On aurait bien aimé que nos proches soient là, mais finalement, ce qu'on a eu, c'était chouette aussi. Et on s'est lancé en parcours PMA très peu de temps après, d'ailleurs, qu'on ait enregistré l'épisode avec Stella. On a fait... plusieurs essais, et le quatrième était le bon.
Et aujourd'hui, donc, vous attendez ensemble une petite brioche.
On attend une petite brioche, ouais.
Il faut aussi noter que Elisabeth a souhaité adopter Stella. Donc, oui. Stella a deux mamans.
Oui, depuis le podcast de Stella, les updates, c'est que effectivement, on s'est un peu battu avec le tribunal de Chartres. Parce que on avait posé, donc dès qu'on a été mariés, qu'on a reçu notre livret de famille et qu'on a reçu le document de non-rétractation après, le document du notaire, en fait, le consentement, le délai de 2 mois, etc. Donc le plus rapidement qu'on a pu, on a posé le dossier au tribunal de Chartres et on a attendu un paquet de temps. La dame qui gère en fait les dossiers qui passent en commission a bien vu que notre dossier, ça faisait un moment qu'il était sur le bureau, donc elle l'a remis en haut de la pile et elle nous a fait passer à l'audience de septembre alors qu'elle nous avait dit qu'on passerait en octobre. Donc on n'a pas pu assister à l'audience alors qu'elle nous avait vraiment, elle avait insisté pour qu'on y assiste en nous expliquant que pour des enfants aussi grands que Stella, c'était important de se rendre dans le tribunal, d'assister à l'audience et de comprendre ce qui se passait pour eux, parce que c'était vraiment leur vie. Donc, on avait préparé Stella à ça. On était, nous, on ne va jamais dans les tribunaux, donc on était impatientes de vivre ça. Et elle nous appelle en septembre. Non, d'ailleurs, je les appelle pour vérifier que c'est toujours bon. Je les appelle en octobre pour vérifier que c'est toujours bon la date. Et là, elle me dit, mais vous avez été, votre cas, il a été passé en commission en septembre. Et je dis, ah bon, mais on n'a pas été prévenus. Et elle nous explique que le Covid, elle a vu qu'on avait attendu, du coup, elle a voulu accélérer. Et je demande, du coup, ce qu'il en est, le jugement. Et l'un dans l'autre, après moult discussions et aller-retour, j'apprends qu'on a été rejetés. Notre demande a été rejetée. Alors là-dessus, je sors de mes gonds, parce que moi, j'avais fait un dossier méga solide, c'est-à-dire avec toute l'expérience qu'on a dans notre communauté de famille. LGBTQIA+, j'avais bien regardé les lettres, les témoignages, les albums photos, tout ce qu'il fallait. Le tribunal de Chartres, il demande rien, juste le CERFA. Mais j'avais mis en plus des choses pour pas me faire recaler, justement. Et là, on me recale. Et je dis, c'est pas possible. J'ai fait la nana têtue. Je suis allée sur Internet. Merci, le collectif famille, parce que j'ai mis le lien du collectif famille où c'est bien expliqué les conditions à remplir pour pouvoir adopter l'enfant du conjoint. J'ai mis les liens des lois, en fait, françaises. Et j'ai expliqué à la magistrate qu'en fait, le refus, me dire qu'elle refusait l'adoption parce que Elisabeth n'avait pas 28 ans et parce que nous n'avions pas 2 ans de mariage, en fait, ne s'appliquait pas à notre cas. Relis la loi, madame. Et en fait, ça ne s'applique pas. Et donc, une fois que je lui ai mis le nez dans son erreur et que je lui ai expliqué qu'en deux clics sur Google, moi, je pouvais lui trouver
l'info,
la loi à appliquer et l'information à utiliser, bizarrement, ils ont revu leur jugement. Et ça a pris encore, encore un ou deux mois pour avoir la nouvelle audience. Après, ça nous a pris un temps infini. Donc ça a pris un mois entre l'audience négative et l'audience positive. Après, ça a pris deux mois pour qu'on reçoive le jugement. Fin février, on a pu envoyer le papier à la mairie de naissance de Stella pour faire changer son nom. Et à ce moment-là, il y a eu un problème et ils n'ont pas pu l'ajouter au livret de famille. Et donc, seulement maintenant, ils l'ont ajouté. Ils ont envoyé le livret de famille dans la mairie dans laquelle je vis. Et on n'a toujours pas pu le récupérer. Donc, c'est à ce point récent. Pourtant, le livret de famille, c'est pas un truc que je laisse traîner. Mais c'est à ce point récent qu'on n'a toujours pas pu le récupérer. Et on est mi-mars.
Ouais,
voilà où on en est. Donc, Stella a officiellement deux mamans. Mais elle n'a toujours pas officiellement le même nom que nous sur ses papiers d'identité. Et comme symboliquement, c'est très très important pour nous de faire les démarches de changer nos papiers d'identité tout ensemble, du coup, nous non plus, on n'a pas les bons papiers d'identité avec notre nom de femme mariée parce qu'on attend Stella.
Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment incompréhensible qu'en fonction des tribunaux, en fonction de la personne qui est derrière le tribunal ou le bureau de la secrétaire du tribunal, les lois ne sont pas appliquées de la même façon partout en France. Donc, il n'y a pas d'homogénéité. Bref, c'est pas homogène, quoi. et c'est hyper... Enfin, voilà, pour nous, c'est lourd, en fait. C'est lourd parce que ça montre encore nos différences, alors qu'en vrai, on nous applique des... Enfin, on nous permet enfin d'être comme tout le monde.
Bah, oui, mais ce qui est le plus lourd, c'est... En fait, ce qui est le plus lourd pour moi, c'est que nous, en tant que personnes concernées, je pense la communauté, hein, même la communauté qui te suit, qui est directement concernée, on a les lois et les avancées en tête. Ce qui est très lourd, c'est que le grand public ne les a pas. Donc nous, par exemple, dans nos proches, on leur a dit, bah, nous, notre PMA, elle nous a coûté tant de milliers d'euros. Les gens, ils ont ouvert des yeux grands comme des soucoupes et ils nous ont dit, mais la PMA, elle est passée, là, légalement, c'est pris en charge. Je leur ai dit, les gars, mais c'est passé bon, avec... Voilà. Enfin, il y a 200 donneurs en France. Non. Bien sûr que c'est pas possible. On serait pas enceinte, là, sinon. Il y a tellement de demandes. Donc, il faut expliquer tout le temps ça. Et c'est ce que te disait Stella quand tu l'as enregistré. Ce qui est le plus lourd, c'est de répéter, d'expliquer et de ne pas se lasser et de ne pas s'énerver parce que les gens n'ont pas l'info. Et nous, on le fait, on éduque beaucoup autour de nous. Et donc, on a éduqué au fait que, ben, oui, Stella, elle n'était pas protégée pendant toutes ces années parce que le cas où moi, je meurs, ben, elle était toute seule. Et bien sûr que mes parents ne l'auraient pas laissée à la rue. Mais si mes parents, ils avaient envie de, j'en sais rien, de faire du mal à Elisabeth, techniquement, ils pouvaient lui interdire de voir Stella.
Oui.
Alors, mes parents ne sont pas des gens idiots, bien sûr, mais on ne peut pas la protéger si on ne l'adopte pas. Et c'est pareil, maintenant, il faut expliquer que, ben oui, mais si tu veux choisir ton donneur parce que pour toi, c'est important, parce que, par exemple, nous, on est en surpoids, donc on ne voulait pas, en tout cas, prendre le risque de donner ce problème-là, on voulait donner une chance de trouver un donneur qui n'a vraiment pas de problème de poids pour que notre enfant n'en ait pas et qu'il risque moins de maladies, en fait. Ben ça, en France, tu ne peux pas le faire.
Non.
Et c'est des petites choses comme ça. Et les gens ne comprennent pas. Les gens te disent, bah oui, mais si tu fais ta PMA en France, c'est gratuit. Oui, mais ce n'est pas à mes termes. Donc, je préfère, c'est malheureux, mais je préfère payer et que ça se fasse dans mes termes.
Oui,
et les gens ne se rendent pas compte.
Peu. Après, maintenant... il faut aussi savoir qu'on peut faire prendre en charge une partie de la PMA à l'étranger. C'est compliqué, des démarches longues, c'est susceptible de ne pas passer. Mais en tout cas, techniquement, c'est envisageable.
C'est un très bon point à rappeler. Et c'est effectivement ce que j'explique autour de moi. Le seul bémol, c'est que ça ne s'applique pas quand tu passes par Cryos et que tu trouves un gynéco en France, ce qui a été notre cas.
Oui, tout à fait.
Et c'est effectivement l'exception à cette règle. Ouais, c'est l'exception à cette règle.
Ouais,
nous,
tout à fait.
On voulait passer par le Portugal avec l'aide de Léa. D'ailleurs, merci beaucoup Léa. On voulait passer par le Portugal et en fait, avec le Covid et en ayant déjà une fille aînée qui était assez grande et donc voilà, qui pouvait pas rater l'école, on a dû passer par Cryos pour pouvoir rester en France. C'est un point à avoir en tête.
Et Stella, elle connaît son histoire ?
Oui. Stella, elle connaît son histoire depuis avant sa naissance.
Ouais, ah oui,
oui, en fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, à nouveau, à Londres, je vivais encore à Londres à l'époque, et j'ai commencé à enregistrer des dictaphones où je lui racontais mes ressentis un peu comme un journal intime. Je lui disais, ben voilà, je pense que je te dirai ça comme ça, je t'expliquerai avec ces mots-là, parce que je sais pas à quel âge... j'avais des grandes interrogations à quel âge on explique aux enfants qu'ils naissent pas dans les choux. Et donc, j'avais pris des notes mentales et je lui expliquais, en fait, voilà, je planifie de commencer à parler de telle chose à tel moment, j'espère que tu n'auras pas de questions avant. Et c'est que des vagues souvenirs parce qu'en fait... mon disque dur a craché et elle n'a jamais pu entendre malheureusement ces enregistrements que j'ai fait pour elle et pourtant il y en avait des dizaines et des dizaines.
Oh, c'est tellement dommage.
Et c'est très très dommage et ça me fait très très mal au cœur d'y penser. Mais du coup, j'ai toujours pris l'habitude de toujours lui raconter les choses, de toujours lui dire la vérité sur tous les sujets, même les sujets qui font moins consensus. Mais elle a toujours toujours connu son histoire. Elle sait qu'elle est née d'une rencontre d'un soir. Elle sait que c'était pas un enfant désiré à la base, mais que une fois que j'ai su que j'étais toujours enceinte d'elle, ben j'ai désiré la garder, même si j'ai pas désiré la concevoir. Elle sait que j'ai désiré la garder, que je me suis toujours battue pour elle à partir du moment où j'ai choisi de la voir, puisque la deuxième fois j'aurais pu faire le choix. Les médecins m'avaient proposé de faire une interruption médicale de grossesse. Pour en gros réparer leur bêtise, parce que c'est eux qui avaient raté l'IVG.
Oui, mais c'est pas tout à fait la même procédure.
Non, c'est pas du tout la même procédure, et du coup, j'ai l'impression que c'était un peu borderline de dire on va faire une interruption médicale de grossesse alors que c'est une grossesse qui allait bien.
Bah oui, bien sûr.
Mais c'était pour faire passer sous le tapis le fait que ben ils avaient aspiré un amas de cellules au lieu d'aspirer un embryon.
Ouais, bah oui.
Bon. En tout cas, j'ai refusé parce qu'il ne faut pas se battre quand un embryon, une âme, n'importe quoi s'accroche, il faut protéger cette âme. C'était ma conviction. Et j'ai expliqué tout ça, c'était là, je lui ai dit à partir du moment où j'ai compris que tu t'étais accrochée, que tu allais rester, ben je me suis mis dans ton équipe et j'ai protégé tout ça et je lui ai toujours, toujours parlé de ça. Après, je lui ai expliqué qu'il y avait différentes façons de faire des bébés. Comment on fait des bébés ? Parce que parfois, il y a une graine de monsieur qui rencontre une graine de madame et ce monsieur et cette madame deviennent des papas et des mamans. Parfois, c'est pas le cas. C'est pas son cas à elle. Mm-hmm. C'était, elle dit, j'ai une graine de maman et une graine de monsieur. Elle a tendance à le dire un peu comme ça.
Mais c'est ça.
Avec le temps, bien sûr que maintenant, elle parle plus facilement d'un ovule et d'un spermatozoïde. Elle a un peu plus de vocabulaire, disons, scientifique, entre guillemets. Les graines à bébé, elle connaît le principe depuis qu'elle est toute, toute petite. Et on lui a fait en anglais, en français. Et on a la chance ou la malchance d'avoir été retrouvée par son géniteur, qui est londonien. Et quand elle avait, c'était là, quel âge elle avait ? 6 ans et demi, je crois. Son géniteur nous a retrouvés, bref, sur Internet, l'un dans l'autre.
Il a fait le lien ?
Il a fait le lien parce qu'en fait, il a déjà un garçon, lui. Qui est plus grand que Stella, il m'a montré une photo de son fils petit. Et en fait, effectivement, il y a des traits communs entre son fils petit et Stella. Et donc, lui, il a dit, non, mais ses enfants se ressemblent trop, c'est sûr, il y a un truc. Nous, on a beaucoup paniqué avec Elisabeth et on a beaucoup pleuré de stress parce qu'on ne savait pas quelles étaient ses intentions. Il y a la barrière de la langue, même si on est bilingues toutes les deux. Donc, c'était beaucoup de stress.
Oui,
et l'un dans l'autre.
Stella n'était pas protégée, ni Elisabeth.
Stella n'était absolument pas protégée parce qu'elle n'était pas adoptée par Elisabeth, parce que nous n'étions pas encore mariés. Donc c'était beaucoup beaucoup de stress, mais on a réussi à créer une relation, on a réussi à comprendre que Chris ne voulait rien de mal à Elisabeth, au contraire, on a réussi à lui expliquer qu'on n'attendait strictement rien de lui, qu'on n'avait pas besoin de lui dans notre vie, que Stella ne manquait de rien, qu'elle ne manquait certainement pas d'un père, qu'elle ne manquait pas de grands-parents, parce qu'il venait avec sa famille. Hein.
Oui, bah oui, évidemment.
Et après, il y a toujours la barrière de la langue, parce que lui, il considère qu'il est le « father », de Stella, parce qu'en fait, il a généré Stella dans le sens où, en anglais, on dit que quelqu'un a fathered avec ED un kid. Mm-hmm. Donc, il a effectivement, je sais même pas le traduire en français, mais il est au sens biologique son père, mais on n'utilise pas ce mot-là en français.
Oui.
Donc, nous, ça nous a créé des journées d'angoisse où on parlait avec lui toutes les trois. Elisabeth, Chris et moi sur WhatsApp, on a une conversation. jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, on voulait tous dire la même chose, mais qu'on n'avait pas le bon vocabulaire et que la barrière de la langue ne nous aidait pas. Mm-hmm. Quand il nous demande des nouvelles de Stella, ça reste occasionnel, on lui en donne, mais on demande à Stella si elle est d'accord. Quand il veut voir Stella, pareil, on demande à Stella si elle est d'accord. Là, on s'est vu fin février parce qu'elle était d'accord. Ça faisait 2 ans avec le Covid qu'on s'était pas vu, donc on n'a pas jugé que c'était non plus trop intrusif. Mm-hmm. Puis c'était une journée à Paris, comme ça, quelques heures, et on a fait un musée, et voilà. Et en fait, on garde la porte ouverte parce que si Stella a des questions, on veut qu'elle puisse se sentir en confiance pour les poser.
Bien sûr.
Et Chris est OK avec ça, en fait. Il veut pouvoir répondre à ses besoins si elle en a et qu'il est en mesure de le faire. Et pour l'instant, ça nous convient à tous comme situation. Maintenant, Stella est adoptée, donc on se sent d'autant plus sereine avec ça. Il n'y a pas de problème de place. Il ne peut plus la reconnaître.
Non,
il n'a jamais voulu la reconnaître, donc tout va bien. Ouais. Le seul truc, c'est que Stella ne parle vraiment pas bien anglais. Elle comprend vaguement maintenant des trucs en anglais. Et Chris, lui, il dit « Bonjour, comment ça va ?» en français. Donc, ouais, c'est vite limité. Et ils ont encore besoin de nous, l'un comme l'autre, pour communiquer. Donc, pour l'instant, c'est bien. Non, dans l'ensemble, voilà, Stella connaît vraiment son histoire. Elle sait comment elle a été conçue. Je lui ai jamais menti. C'est très important pour nous, en fait. Mm-hmm. Qu'elle sache que oui, effectivement, dans la vie, elle part avec ce désavantage de ne pas avoir été désirée à la base. Mais elle part avec cette force d'avoir une armée derrière elle qui s'est toujours battue pour qu'elle ne manque de rien. Et pour le coup, avec la conviction qu'on a que les âmes ne viennent pas sur Terre pour rien, elle a une armée pour être sûre de pouvoir mener son projet à bien, quoi.
Bien sûr. Et d'ailleurs, je me suis posé une question tout à l'heure. Je me suis demandé, quand les médecins t'ont proposé l'IMG, est-ce que tu as, toi, envisagé, du coup, d'aller au bout de cette grossesse et de la placer sous X, puisque tu avais la conviction que si elle s'était attachée et qu'elle était restée, c'était pas pour rien, mais tu aurais pu te dire, j'ai toujours pas les conditions pour l'élever, je la confie à une autre famille.
Si moi j'avais choisi de faire l'IVG à la base, au tout début de la grossesse, les premières semaines, c'est parce que je me connais assez pour savoir que j'aurais jamais le courage d'abandonner un enfant sous X.
Ouais.
En fait, je pouvais renoncer à un embryon, j'aurais jamais pu renoncer à un enfant que j'aurais senti bouger, avec qui j'aurais joué, parce que j'ai joué pendant quelques mois, les derniers mois où Stella était dans mon ventre, j'ai joué avec elle. Je savais que je pourrais pas l'abandonner. Et donc non, j'ai jamais considéré, pas une seule seconde, d'accoucher sous X. Ça m'est même pas venu à l'esprit.
Ouais.
Parce que, je sais pas t'expliquer, Constance, c'est comme ça. Je savais qu'en fait, si elle avait persisté à être là malgré l'IVG, c'était un signe de la vie. Il fallait que moi, je me débrouille pour faire en sorte que ça rentre. Et pour une fois, c'est la vie qui forçait son agenda sur moi et pas l'inverse. Parce que j'ai tendance à tout bousculer pour que ça rentre comme moi, je veux. Et parfois, la vie fait des blagues. Et là, c'est la vie qui m'a dit « Non, ma poule, cette fois, c'est pas toi qui vas faire la loi. » Et non, non, non. J'ai jamais considéré de
cette option-là.
Ni de l'abandonner, ni non plus de faire l'interruption médicale de grossesse, parce que c'est pareil en fait. T'as eu ta chance, t'as fait une IVG, elle a raté, maintenant tu l'acceptes et tu gères, parce que si ça se produit comme ça, c'est que ça doit se produire comme ça.
Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Marion. Je pense que c'était vraiment hyper important de parler de ce qui peut se passer aussi quand parfois. On se retrouve dans des situations qui ne sont pas nos situations familiales habituelles, parce qu'on n'a pas toutes la même histoire, on n'a pas toutes su de suite qu'on était lesbienne. On a eu un parcours avant, certaines, je le sais, sont passées par l'avortement, et bon, toi, ton avortement a une conséquence qui est différente.
Des avortements qui fonctionnent, on va le dire comme ça.
Enfin, classique, on va dire, en tout cas, réussi. Voilà, mais je pense que c'était hyper important d'en parler parce que dans nos parcours, dans nos familles, des fois c'est difficile de penser à son avortement, de se rappeler de son avortement alors qu'on sait que derrière on a des difficultés à procréer, enfin on peut pas le nier, c'est compliqué pour nous, ça coûte cher. Je suis sûre qu'il y a de l'ambivalence dans certaines familles ou même en certaines personnes par rapport à ça.
Oui, et puis moi, je voulais juste ajouter, si tu me permets.
Bien sûr.
Moi, je regrette pas mon avortement. Je regrette pas du tout d'avoir avorté. Je sais que factuellement, dans le contexte qui était le mien, à savoir que j'avais 22 ans, que j'avais pas de diplôme, que j'avais pas d'appartement, pas de travail, parce que j'étais juste au pair en fait. C'était un peu une année de césure en fait. Donc j'avais dans ce contexte-là rien pour accueillir ce bébé. Et donc je ne regrette pas d'avoir avorté. Et bien sûr, on dort mal, hein, et on le fait pas de gaieté de cœur, mais je savais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et quand je me suis aperçue que j'étais toujours enceinte de Stella, en fait, j'ai changé le contexte. Et c'est ce qui fait qu'après, j'ai pu garder Stella. J'ai décidé que du coup, j'allais quitter Londres, j'allais trouver un travail, j'allais trouver un appart, j'allais me remettre dans mes études. Et donc, j'ai changé mon contexte. Ce que je ne voulais pas faire à la base, c'est pour ça que j'avais avorté. Je ne voulais pas changer mon contexte. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, non, faut arrêter de lutter. Et qu'il faut juste aider cet être humain à venir au monde. Faire ce choix, ça m'a pas plus apaisée parce que j'ai eu une deuxième chance. Voilà, j'avais pas de regret d'avoir fait mon avortement, c'est juste le contexte a changé, donc je l'ai pris autrement et j'ai aucun. Enfin voilà, je suis claire avec ça et j'ai aucun problème à défendre l'avortement pour tout le monde. Et je pense que c'est important qu'on ait ce droit-là et je suis très heureuse de l'avoir moi en tant que femme.
Ouais, c'est un droit important. Le droit à disposer de notre corps, c'est, je pense, essentiel. Et aujourd'hui, même dans nos familles, il peut nous arriver d'avoir recours à l'avortement. Et ça, c'est une chance. Il y a plein de pays où c'est pas possible.
C'est ça. On est chanceuse de pouvoir avorter en sécurité, entre guillemets.
Exactement. Je te remercie beaucoup, Marion. Et puis, on te retrouve très certainement très bientôt à nouveau sur le podcast.
Avec plaisir. Merci beaucoup à toi, Constance, de m'avoir donné la parole.
Je t'en prie. Je suis fascinée par les dénis de grossesse et la puissance de l'esprit sur le corps. Je suis toujours admirative de la force qu'il faut pour avoir recours à une IVG. Et je suis reconnaissante de vivre dans un pays où nous pouvons disposer de notre corps et avoir recours à l'IVG. Si j'ai souhaité enregistrer cet épisode et le diffuser ce mois-ci, c'est parce que la loi a évolué depuis peu et que le délai légal pour pouvoir avoir recours à un avortement est passé de 12 à 14 semaines d'aménorrhée. Je ne vous donnerai pas de stats concernant l'avortement, mais je retiendrai la phrase de Simone Veil. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Je ne vous demanderai plus de noter le podcast sur Apple Podcasts, vous pouvez toujours sur Spotify. Suite à ma prise de conscience concernant le terme d'homoparentalité et clairement l'invisibilisation du podcast par la plateforme Apple. En revanche, vous pouvez me laisser des commentaires sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, et on peut s'y retrouver pour poursuivre la discussion et en commencer de nouvelles. Je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à jeudi prochain pour un épisode du fil rouge du podcast Les Enfants Vont Bien. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.